Pour savoir justement où en sont les dernières avancées de la recherche, j'invite le professeur Bruno Dubois à me rejoindre sur scène. Merci de l'applaudir.
Bonjour à tous, merci, merci à vous, merci à Bordeaux de nous accueillir. Bordeaux est une ville très très dynamique dans le domaine de la recherche sur la maladie d'Alzheimer. Je suis très content d'être là, moi, petite personnelle aussi, puisque je suis un peu bordelais, j'ai fait mes études à Bordeaux, j'ai fait mon DEA à Bordeaux, donc je me sens très à l'aise chez vous, c'est un peu chez moi, voilà. Donc merci de venir nombreux, c'est toujours agréable d'avoir une salle pleine à craquer, on peut le dire. Je vous rappelle qu'il y a deux ou trois places devant, il y a trois places devant, si vous voulez. Les trois personnes qui sont debout peuvent s'asseoir ici, voilà. Donc, merci à vous d'être nombreux pour nous écouter parler de la maladie d'Alzheimer. Ce que je voudrais faire dans un premier temps, c'est faire un peu un bilan général sur ce qu'est cette maladie. Attendez, il faut que je maîtrise, voilà. Alors, on a parlé d'un livre récent, je vais vous parler d'un livre un peu plus ancien, qui est un livre que j'ai commis il y a trois ans, sur la maladie d'Alzheimer et qui s'appelait « La vérité sur la maladie du siècle ». Alors, il y a eu un petit problème commercial, je dirais, parce que quand vous publiez un livre qui s'appelle « La vérité sur la maladie du siècle » 15 jours avant le Covid, évidemment, c'est un peu mal choisi, quoi, voilà. Alors, il a fallu faire le dos rond pendant quelques années. Puis, c'est intéressant, permettez-moi juste de faire cette remarque, c'est que le Covid, on n'en est pas sorti, on le sait bien, mais malgré tout, ce qui était quand même un énorme enjeu de santé publique il y a trois ans, les moins, et la maladie d'Alzheimer redevient un sujet de préoccupation. C'est la raison pour laquelle vous êtes nombreux, c'est pas la raison pour laquelle on fait ces entretiens, parce qu'on se rend compte qu'il y a un problème de fond, qui est que notre maison vieillit et qu'on regarde un peu ailleurs. Et ça, paraphrasant quelqu'un de connu. Voilà, donc notre maison vieillit, et vous savez pourquoi elle vieillit. Et c'est bien sûr en rapport avec l'allongement de la vie. Voilà, l'allongement de la vie qui est une conquête, et il faut s'en réjouir. C'est une conquête de nos sociétés modernes, occidentales, et bravo, bravo aux médecins qui font que, finalement, nous vivons de plus en plus longtemps. Bravo à la facture de sécurité, bravo à toutes ces actions qui ont été entreprises, le contrôle de l'hypertension artérielle, bravo au fait qu'il y ait l'Europe et qu'il y ait moins de guerre en Europe. On peut en parler. Mais voilà, globalement, si vous voulez, notre espérance de vie a considérablement augmenté, puisqu'elle était, je vous le rappelle, de 40 ans au début du 19e siècle, c'est-à-dire il y a 200 ans, et elle est aujourd'hui de 85 ans, ce qui est remarquable. Et sachez que si vous avez la chance d'avoir une petite fille qui naît aujourd'hui, son espérance de vie sera de 90 ans, c'est-à-dire que vivant jusqu'à 90 ans, elle aura quand même 4 chances sur 10 de développer la maladie d'Alzheimer. Il ne faut pas l'oublier. Donc, vous voyez, c'est un défi qui est lié à cet allongement de la vie, c'est-à-dire que la conséquence de la qualité des soins et de l'amélioration de la santé en général fait que nous allons tous, la main dans la main, à l'âge où cette maladie devient naturellement fréquente. Et je voudrais vraiment insister sur ce point-là. À partir d'un certain âge, cette maladie devient naturellement fréquente. Il ne faut pas aller chercher des explications en disant que si l'augmentation du nombre de ces patients est liée à des maladies infectieuses ou je ne sais quoi. Pas du tout, pas du tout. C'est pas toxique. C'est simplement que, sans être dû au vieillissement, elle est liée au vieillissement. Elle apparaît d'autant plus fréquente que les gens vivent longtemps. Voilà, donc vous connaissez, après ce sont des généralités, simplement pour vous dire que c'est devenu un problème majeur de santé publique. Et je voudrais vous maintenant reprendre un peu l'historique de cette maladie pour vous montrer combien on a malgré tout progressé au cours de ces dernières années. J'ai eu la chance, moi, ayant en fin de carrière médicale et scientifique, j'ai la chance de voir l'évolution qui s'est faite au cours de ces 20 dernières années. C'est absolument, absolument extraordinaire. Alors, je voudrais repartir du départ. D'où partons-nous? Eh bien, on part de là. On part d'une rencontre entre un homme, M. Alois Alzheimer, et une femme, Auguste D. On est, je crois, en 1901. Et c'est l'observation, d'ailleurs, que Alois Alzheimer va faire de la patiente lorsqu'elle arrive dans son service. Il la prend en photo. Cette photo est prise alors que cette malade arrive dans le service. Elle a 52 ans. Et il va la suivre, lui et ses collaborateurs, pendant 5 ans. Elle va décéder. Et ce qu'il faut comprendre, et c'est ça le point intéressant, c'est que la description par Alzheimer est une description double. Il décrit d'abord un syndrome clinique qui est ici. Et ce syndrome clinique associe des troubles cognitifs, des troubles comportementaux et des troubles psychiatriques. Et il relie, je dirais, cet ensemble de signes, ce qu'on appelle la sémiologie en clinique, un ensemble de troubles que présente la patiente. Il les relie à la présence des deux lésions qu'il découvre dans le cortex cérébral de la patiente, parce qu'il a l'opportunité de faire un examen de son... Il a l'opportunité de faire un examen de son cerveau, et il découvre ces deux lésions, et il dit, voilà, la maladie qu'a cette patiente est en rapport avec ces deux lésions. D'ailleurs, c'est intéressant, parce que à une exception près, enfin, c'est la première fois que l'on rapporte des troubles mentaux à des lésions cérébrales. Donc cette observation, sur un plan de l'histoire de la médecine, est importante. Mais pour nous, si vous voulez, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la maladie d'Alzheimer, c'est un cadre syndromique qui associe donc des signes à deux lésions. C'est les deux seuls mots que vous aurez à retenir sur le plan médical. C'est les lésions amyloïdes et les lésions tau, parce qu'on aura l'occasion d'en reparler. Alors, que s'est-il passé depuis ? Peut-être terminons sur la description initiale d'Aloïs Alzheimer. C'est qu'il dit que c'est une démence. Et il dit que cette patiente a une démence. Le syndrome dont je vous ai parlé, cet ensemble de signes, caractérise une démence. Une démence, qu'est-ce que c'est en médecine ? Ce n'est pas du tout ce que vous croyez. C'est un terme qui n'est pas le même que celui du sens commun. Ça ne veut pas dire que les gens sont fous, ça ne veut pas dire que les gens sont déraisonnés. C'est simplement qu'ils ont perdu leur autonomie. On est dément quand on n'est plus capable de remplir les activités de la vie quotidienne, comme les transports, comme le téléphone, comme prendre ses médicaments, par exemple. Si vous avez des médicaments à prendre, vous êtes capable de les prendre, vous, tout seul, spontanément. Vous êtes capable de venir à la place de la Bourse en prenant le tramway, et vous descendez, prenez le tramway C ou le tramway D, et vous descendez à la place de la Bourse. Voilà. Et ça, vous savez le faire. Donc, à partir du moment où vous êtes capable de le faire, on considère que vous êtes autonome. Un patient qui n'est plus capable de le faire seul est quelqu'un qui a perdu son autonomie. Il est dépendant, il dépend de la présence d'un aidant. Et il est, nous, c'est comme ça qu'on appelle ça en médecine, c'est un terme malheureux, on dit qu'il atteint le seuil de démence. Donc à l'époque d'Alzheimer, et jusqu'à il y a 20 ans, le diagnostic ne pouvait pas être formellement démontré parce qu'on n'avait jamais accès aux lésions cérébrales. Donc on n'avait que le syndrome clinique, mais on n'avait pas la preuve des lésions cérébrales. Donc on disait, c'est probablement une maladie d'Alzheimer parce que ce n'est pas autre chose. Ça s'est installé progressivement, il a 65, 70, 75 ans, il perd un peu la mémoire, il commence à être un peu dément. Ben voilà, on va dire c'est une maladie d'Alzheimer. Mais on n'avait pas la preuve, on parlait d'ailleurs de maladie d'Alzheimer probable. C'est un effet de probabilité, on n'avait pas du tout la certitude. Alors, il s'est passé depuis un certain nombre de choses, et je vais maintenant vous le montrer. Je vous ai dit en 20 ans, à peu près 20, 25, 30 ans, il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses parce qu'on a découvert, si vous voulez, d'abord que cette maladie avait une certaine logique et qu'on connaît maintenant bien, si vous voulez, l'histoire naturelle de cette maladie. Et ça, c'est des travaux qui ont été faits par deux auteurs allemands, Brack et Brack, mari et la femme, et ils ont montré que contrairement à ce qu'on pensait à l'époque, on disait, moi, quand j'ai appris la neurologie, on disait il y a autant de maladies qu'il y a de malades. Mais pas du tout. Ce n'est pas vrai du tout. La maladie d'Alzheimer est relativement homogène dans 90% des cas. Elle commence ici. Elle commence par... Je ne sais pas s'il y a un pointeur. Non, ce n'est pas grave. Elle commence, voyez, à gauche, par cette tache grise qui touche une région du cerveau qui s'appelle l'hippocampe. Or, l'hippocampe, on en reparlera, c'est, si vous voulez, la porte qui ouvre le cerveau. Et si vous voulez, quand l'hippocampe est cassé, on ne peut pas faire rentrer une information nouvelle dans la banque qui est le cerveau. Donc l'hippocampe est d'abord cassé dans la maladie d'Alzheimer. Dans un premier temps, il y a une atteinte de l'hippocampe, mais qui est une atteinte relativement isolée, qui va durer longtemps. Qui va durer longtemps pendant pendant 10-15 ans peut-être. Et puis après, les lésions vont diffuser en avant et puis vont finalement, si vous voulez, envahir l'ensemble du cerveau et donc s'accompagner de troubles, ces fameux troubles cognitifs, comportementaux, psychiatriques, qui font que les gens deviennent déments parce que l'ensemble du cerveau s'embrase. Donc, on peut distinguer dans cette maladie, finalement, deux phases. Une phase, vous voyez, nous avons contribué à la décrire, une phase qu'on a appelée prodromale, c'est-à-dire une phase, si vous voulez, pré-démentielle, avant la démence, qui va être caractérisée principalement par un syndrome amnésique qui va être inaugural et qui va rester assez longtemps comme ça. Et puis, secondairement, il va y avoir l'apparition des troubles du jugement, du langage, des troubles des gestes, de la reconnaissance des visages et des objets, du comportement et du caractère, et qui va, à ce moment-là, évidemment, entraîner une dépendance du sujet. Il n'est plus autonome, il devient dément. Donc, vous voyez, ces deux phases, alors c'est important parce qu'on va revenir là-dessus. Il y a une phase qu'on va appeler une phase prodromale, une phase prédémentielle, et puis une phase démentielle. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui est intéressante, vous voyez, c'est que à partir du moment où on dit que la maladie d'Alzheimer débute par un trouble de mémoire, il y a dans cette salle un certain nombre de personnes qui s'inquiètent, car elles ont une plainte de mémoire. Et évidemment, ce que je viens de vous dire avant peut vous entraîner un peu d'anxiété en se disant, moi qui ai une plainte de mémoire, et je suis moi le premier à me plaindre de ma mémoire, est-ce que c'est le début d'une maladie d'Alzheimer? Eh bien non, on a bien travaillé là-dessus au cours de ces dernières années, et on a montré qu'il faut dissocier très clairement plainte de mémoire d'un côté, trouble de mémoire de l'autre. Alors je vais essayer de vous le démontrer en un certain nombre de points. La première chose, vous avez sur cette diapositive, c'est un vieux travail que j'ai fait avec Agnès Michon il y a maintenant une vingtaine d'années, mais on a étudié la plainte de mémoire, vous voyez, plus c'est haut, plus on se plaint, vous voyez, ça va jusqu'à 160 en haut, quelqu'un porte ce que ça représente, mais c'est la plainte, si vous voulez, pour faire simple, la plainte de mémoire dans deux groupes de sujets. D'abord, en haut, vous voyez, ce sont des sujets qui sont déprimés. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces sujets ont des performances intellectuelles normales. En témoigne, vous voyez pas bien, mais à droite, il y a un score de MMS. Le MMS, c'est un peu le thermomètre de la cognition. Bon, nous avons tous un MMS à 29 ou à 30, et d'ailleurs, ces sujets-là, c'est sur 30, hein, et ces sujets-là avaient un MMS à 29 en moyenne. Donc, ils avaient une performance normale. Donc, vous voyez, ils se plaignent de façon importante, d'accord, mais ils ont un fonctionnement normal. C'est paradoxal. Et puis, vous avez au-dessous une ligne qui est plate, qui est celle de patients atteints de maladie d'Alzheimer. Alors, eux, ils ont un MMS bas. Ils ont un MMS à 20, ils sont malades, ils ont des troubles de mémoire, hein, vous avez compris. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ne se plaignent pas. Ce qui m'avait fait dire, il y a une vingtaine d'années, peut-être un peu plus, cette phrase un peu paradoxale, et qui était un peu étonnante, c'est que plus on se plaint de sa mémoire, moins on a de risques d'avoir la maladie d'Alzheimer. Et généralement, quand je dis ça dans un public où il y a quelques cheveux blancs, ça, on sent une certaine détente, parce que les gens se rassurent. Et ils ont raison. Il faut bien distinguer deux choses. La plainte de mémoire, qui n'a rien à voir avec la perte de la mémoire. Si vous voulez, si on se plaint de sa mémoire, c'est parce qu'on a des troubles attentionnels, probablement. On ne fait pas attention aux choses sans importance. On ne fait pas attention à l'emplacement où on a laissé ses lunettes. Vous voyez, là, je viens de les laisser, je n'avais pas fait attention, et très gentiment, docteur Planche me les a ramassées. C'est normal, on ne fait pas attention aux choses banales. L'emplacement des clés, l'emplacement du journal, l'emplacement des lunettes, où on a garé la voiture, c'est des choses extrêmement banales. Or, c'est ce qui nous sollicite tout le temps. Donc, on est en permanence en train de se dire qu'on perd la mémoire. Ce n'est pas important. En revanche, on se rappellera d'une chose importante, puisque notre hippocampe fonctionne bien, il sera capable d'enregistrer les informations pour lesquelles on va fixer notre attention. Par exemple, l'anniversaire d'un enfant, une soirée sympathique avec des amis, ça, on s'en rappellera, parce que ça a frappé notre attention. Voilà, donc, à partir de là, on a mis au point des tests, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui ont permis de dissocier ce qui relève d'un trouble de la saisie, c'est le système perceptif qui reçoit l'information, d'accord, notre système visuel, notre système auditif, et qui envoie l'information vers cette petite boule que est représentée ici, qui est l'hippocampe. Donc quand l'hippocampe est cassé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, évidemment l'information qui a été perçue ne sera pas stockée dans le cerveau, n'ira pas dans la banque. Donc l'information ne sera pas gardée dans le cerveau, c'est la maladie d'Alzheimer. Donc il faut dissocier le trouble de la saisie, qui est le trouble attentionnel, du trouble qu'on observe dans la maladie d'Alzheimer, où l'information a bien été saisie, mais elle ne peut pas rentrer dans la banque, puisque la porte de la banque est cassée. Et puis, vous avez une troisième étape, qui est de récupérer l'information, et on sait qu'au cours du vieillissement normal, il y a une diminution des capacités d'activation des recherches en mémoire. C'est le fameux syndrome sur le bout de la langue, je sais que je sais, ça va revenir, c'est toujours comme ça, on me le demande, ça ne vient pas, mais quand je sortirai de la pièce, je me rappellerai évidemment de la chose. Voilà. Donc ça, c'est le vieillissement. Donc quand on a une plainte de mémoire, il faut faire la part entre est-ce que c'est un trouble de l'attention, par exemple une dépression, est-ce que c'est un trouble du stockage de l'information, est-ce que c'est une maladie d'Alzheimer, ou est-ce que c'est un trouble de la récupération, est-ce que c'est du vieillissement. Eh bien, c'est ce qu'on fait en consultation de mémoire, on a des tests qui nous permettent de faire la part des choses. Donc, si vous avez une inquiétude importante, allez en consultation de mémoire, où on vous diagnostiquera si c'est un trouble de saisie, un trouble attentionnel, une maladie d'Alzheimer qui débute, ou simplement un vieillissement normal. C'est très important, et surtout, ne restez pas avec l'idée que votre plainte de mémoire est en rapport avec cette maladie. Il y a beaucoup de chances, je dis bien le terme, pour que ça ne soit pas relié. Alors, la troisième chose qu'il faut savoir, la deuxième chose, c'est que, vous voyez, on a le syndrome et on a les lésions. Et les lésions, je vous ai dit, on ne pouvait pas les authentifier. Eh bien, depuis une quinzaine d'années, on peut maintenant voir les lésions du vivant des gens. On n'a plus besoin de couper les cerveaux, on peut voir les lésions. Pourquoi ? Parce qu'on a mis au point des techniques qui permettent de se fixer sur les lésions du cerveau. On injecte une molécule dans le sang des patients, et cette molécule va se fixer sur les lésions. Et vous avez la grille de lecture qui est à gauche, vous voyez cette barre verticale, ça se fait en PET scan. Hein. Vous avez à gauche la grille de lecture. Quand c'est bleu, c'est que ça ne se fixe pas, il n'y a pas de lésion. Et vous voyez, quand on monte vers le jaune et vers le rouge, c'est qu'il y a des lésions. Et bien, vous êtes capable maintenant de faire la lecture et de faire le diagnostic vous-même. À gauche, vous avez le cerveau d'un sujet contrôle, vous voyez, en périphérie, tout autour, c'est que bleu, c'est un sujet qui n'a pas de lésion de la maladie. Et vous avez à droite un patient qui a AD, Alzheimer's disease, il a la maladie d'Alzheimer, et bien vous voyez que malheureusement, il a du jaune et du rouge, plein son cerveau, il a des lésions de la maladie d'Alzheimer. Donc aujourd'hui, on peut affirmer la présence, quand on a le syndrome, de la cause en faisant cet examen PET scan. Alors, cet examen, pour des raisons d'autorisation de mise sur le marché par le ministère, n'est pas accessible en pratique clinique. On l'utilise en recherche quotidiennement. À Bordeaux, ils travaillent beaucoup là-dessus. Ils le font régulièrement chez des patients en recherche. Mais en clinique, on ne peut pas. Ce n'est pas grave parce qu'on a une autre technique qui est aussi efficace et qui est un peu spectaculaire, c'est la ponction lombaire. La ponction lombaire est un geste extrêmement banal, on a des aiguilles extrêmement fines, et ça nous permet de récupérer le liquide céphalo-rachidien. Ce liquide nous donne des informations sur les lésions du cerveau. Et on mesure maintenant dans le liquide céphalo-rachidien la concentration de protéines amyloïdes et la concentration de protéines tau. Et les équipes bordelaises travaillent beaucoup là-dessus, d'ailleurs avec nous, sur cette relation, si vous voulez, entre la présence de ces marqueurs du liquide céphalo-rachidien et les lésions du cerveau. Et plus récemment, et c'est ça surtout sur lequel on travaille, on a maintenant montré que dans le sang, grâce à des techniques extrêmement sensibles, qui sont capables de mesurer des variations à des concentrations extrêmement faibles, on arrive maintenant à avoir des mesures dans le sang qui sont un reflet de ce qui se passe dans le cerveau. Ce qui nous permet d'espérer ou de penser que dans l'avenir, on aura probablement la possibilité d'associer à un syndrome clinique, par un prélèvement sanguin, la présence de ces protéines pathologiques qui caractérisent la maladie d'Alzheimer. ça pose des problèmes. Il faut bien sûr le valider. Et puis ça posera des problèmes d'utilisation qu'il faudra bien contrôler la façon et les conditions dans lesquelles on fera ces mesures dans le sang. On y travaille, on est très vigilant. Voilà. Ça, c'est la troisième chose. Alors, ces fameux biomarqueurs, on appelle ça des biomarqueurs, on vous en parlera régulièrement. Ces fameux biomarqueurs ont énormément d'intérêt. D'abord, vous avez compris, ils permettent de confirmer le diagnostic. Bien sûr, parce qu'on associe au syndrome maintenant la présence de ces biomarqueurs. Et nous avons travaillé sur le concept d'entité clinico-biologique. Vous voyez, comme Alzheimer, il y avait clinico-pathologique. Eh bien, nous, on dit c'est clinico-biologique. Et je sais qu'avec le docteur Planche, on travaille sur ce concept-là. La quatrième point qui est très intéressant, c'est que les biomarqueurs nous permettent de mesurer l'effet des médicaments qui sont actuellement en développement. Et cette diapositive est très spectaculaire, parce que grâce à ces techniques qui nous permettent de mesurer la concentration des lésions amyloïdes dans le cerveau, on est en train de montrer que les médicaments anti-amyloïdes nettoient les lésions du cerveau. Je répète, nettoie les lésions du cerveau. Vous avez ici, à droite, vous voyez, représenté la concentration des lésions chez les patients chez lesquels on va faire ces études de médicaments. On les étudie pendant un an et demi. Vous voyez, vous avez en bas la durée, 6 mois, 12 mois, 18 mois. D'accord ? Quand on remesure, quand on refait cet examen pour voir où en sont les lésions du cerveau, les lésions amyloïdes du cerveau, on voit qu'à 12 mois, c'est-à-dire un an après, par rapport à la concentration initiale qui était de 100, c'est tombé à 20. C'est-à-dire 80% des lésions du cerveau ont disparu après un an de traitement, à tel point que le laboratoire qui développe le donanemab, qui est un de ces trois médicaments, le laboratoire a décidé maintenant, quand il fait des études de son médicament, c'est de dire, après un an, on reprendra la photo, et si la photo montre qu'il y a au moins 80% des lésions qui ont été nettoyées, on arrêtera le traitement, parce qu'on ne va pas continuer pendant un an et demi un traitement qui a déjà montré son efficacité à 12 mois. Donc c'est pour vous montrer, si vous voulez, combien les choses avancent. Grâce à ces biomarqueurs, on a maintenant la preuve de l'efficacité de ces médicaments sur les lésions. C'était important parce que sur les symptômes, ça ne bougeait pas. Alors, vous allez me dire, oui, mais attendez, on n'est pas là pour traiter des lésions, on est là pour traiter des symptômes. Oui, mais ça voulait dire que ça nous a énormément stimulés, parce qu'on s'est dit, attendez, si on a cet effet sur les lésions et qu'on n'a pas l'effet sur les symptômes, c'est qu'il y a un problème et que probablement, on soigne des patients trop tard dans l'évolution de leur maladie. Ils sont déjà trop avancés. Vous vous rappelez les schémas que je vous ai montrés au début. Donc, prenons-les le plus tôt possible. Prenons-les, par exemple, à la phase prodromale, cette fameuse phase dont je vous ai parlé. Et effectivement, maintenant qu'on inclut et qu'on essaie ces médicaments chez des patients plus tôt, pour la première fois, on vient d'observer un décalage entre les symptômes des patients traités par rapport aux symptômes des patients sous placebo. C'est la première fois qu'on a un effet non seulement sur les lésions, mais cette fois-ci sur les symptômes. Alors, l'effet est modeste. Vous voyez que les patients continuent à s'aggraver. Ils s'aggravent moins vite qu'en l'absence de traitement, ce qui veut dire que, dans l'avenir, quand ces médicaments arriveront, et ils vont arriver, il faudra comprendre que, quand même, le malade prend le médicament et il s'aggrave. Mais il s'aggrave moins vite qu'il ne s'aggraverait s'il ne le prenait pas. Et ce qui est important, si vous voulez, c'est que, comme je vous l'ai dit, c'était des études à 18 mois. Si vous continuez mentalement, l'espacement entre les deux courbes, voyez que si on continue dans le temps, on peut espérer que l'amplitude de l'effet augmentera au fur et à mesure qu'on prendra le médicament. Donc il est possible que l'effet soit déjà plus important que celui qui a été mesuré. Et sachez aussi qu'on travaille maintenant sur des médicaments pour tester l'hypothèse qu'ils seront encore plus efficaces en agissant sur d'autres formes de la protéine. Donc voilà, on est en train, vous voyez, d'avancer terriblement, d'autant plus que, toujours grâce aux biomarqueurs, on montre, et c'est ce que je vous ai dit dans le petit film avant, que les lésions de la maladie sont déjà présentes avant le début des symptômes. C'est-à-dire que les biomarqueurs sont déjà anormaux avant que les gens ne rentrent, que les patients ne rentrent dans la maladie. Ce qui veut dire, quand je vous ai dit qu'on peut se faire, on peut se mesurer les biomarqueurs, mais on peut, nous, sujets normaux, mesurer nos biomarqueurs et savoir si on a ou pas les lésions de la maladie. Je vois quelques patients qui ont à peu près mon âge ou qui sont un peu plus jeunes, mais qui voudront peut-être aller avec moi ce soir à Bordeaux pour savoir s'ils ont les lésions de la maladie. Ça peut être intéressant de savoir si on a ou pas les lésions de la maladie. Et bien justement, on est en train de montrer que ce n'est pas très intéressant de savoir si on a les lésions de la maladie. On travaille beaucoup là-dessus, et je vais vous expliquer pourquoi ce n'est pas forcément très intéressant. Parce que, vous voyez, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'il y a finalement trois phases. On a commencé par parler de la phase de la démence, vous voyez ? Très bien, à droite. Et puis, je vous ai introduit une nouvelle phase, la phase prodromale. C'est-à-dire, ce sont des sujets malades, mais qui n'ont pas encore la démence, d'accord ? Et là, je vous introduis une troisième phase, qui est la phase de sujets normaux et qui auraient les lésions. Et ce qui réunit ces trois phases, c'est la présence des biomarqueurs, même si le tableau clinique est différent. Démence, syndrome amnésique ou absence de troubles. Alors, il y a un intérêt évident aujourd'hui, c'est ce que je vous disais dans le petit film, pour cette prévention pharmacologique. Donc, il y a un intérêt évident pour cette phase préclinique. Parce que, si vous m'avez bien suivi, on a des médicaments qui nettoient les lésions. Ils ne sont pas très efficaces sur les symptômes. Mais comme les lésions précèdent les symptômes, peut-être que si on arrivait à nettoyer les lésions chez des gens normaux avant qu'ils aient les symptômes, évidemment, on arriverait à retarder l'entrée dans la maladie. Est-ce que c'est clair ? Vous me suivez ? Voilà. Donc on est dans cette dynamique, si vous voulez. On est dans cette dynamique. Alors, pour vérifier que la dynamique est bonne, il faut quand même s'assurer que le fait d'avoir les lésions vous assure, entre guillemets, immanquablement que vous développerez la maladie. Parce qu'on ne va pas traiter des gens pour une maladie qu'ils n'auront peut-être jamais. Donc, c'est la raison pour laquelle on a fait, à la Salpêtrière, cette étude. On a suivi des sujets âgés normaux qui avaient les lésions amyloïdes. Alors, on a pris 320 sujets au départ, à qui on a fait toutes les misères du monde. C'est des gens sympathiques qui ont joué le jeu. Ils étaient âgés, ils n'avaient aucun trouble au début dans l'étude. On a cherché s'ils avaient des lésions amyloïdes. 28% d'entre eux avaient les lésions, c'est-à-dire les 88 qui étaient amyloïdes positifs. Et on les a suivis pendant de nombreuses années en leur faisant plein d'examens. Et 7 ans après, voilà le résultat, seuls 16 surgés sur les 88 ont développé la maladie. C'est-à-dire que 72 restaient sans aucun symptôme, étaient stables, cognitivement normaux. Ils avaient en moyenne à ce moment-là 83 ans, ce n'est quand même pas des patients très jeunes. D'accord ? Donc ça veut dire que le fait d'avoir des lésions ne veut pas formellement dire que l'on développera la maladie de son vivant. Peut-être que si on continue à les suivre, il y en a un certain nombre qui vont continuer à développer la maladie. Mais enfin, l'égalité lésion égale maladie n'est pas formelle. Et nous, on dit, il faut faire attention, c'est beaucoup plus subtil, ça va être beaucoup plus compliqué, il faut rentrer dans cette affaire avec beaucoup de prudence, parce qu'il ne faudrait pas traiter avec des médicaments potentiellement dangereux, c'est pas des médicaments simples, des gens normaux pour une maladie qu'ils ne développeront peut-être jamais. Alors pourquoi est-ce qu'ils ne la développent pas ? Eh bien, ça, c'est une piste parmi d'autres, ce n'est pas forcément la bonne, mais c'est pour vous montrer que le cerveau est capable de lutter contre l'agression cérébrale. Et vous avez là, à droite, c'est intéressant, c'est indicatif, si vous voulez, de la capacité qu'a le cerveau de réagir. Vous avez, ce sont des électroencéphalogrammes qui ont été faits à trois reprises au cours de l'évolution de ces patients, de ces sujets, dans l'étude. Vous avez en haut l'évolution de l'EEG chez des sujets qui étaient amyloïdes négatifs, qui n'ont pas de lésion. Vous voyez, en gros, ça ne change pas. Et vous avez au-dessous l'électroencéphalogramme des sujets qui avaient des lésions, mais qui n'ont pas évolué, qui sont restés stables, les 72. Hein, très bien. Et vous voyez qu'il y a des modifications de l'activité cérébrale chez ces sujets par rapport au sujet amyloïde négatif. Comme si, finalement, le cerveau était capable de mettre en place des stratégies pour maintenir une fonction alors qu'il y a une altération de la structure. Et c'est ce concept qu'on a introduit de résilience cérébrale, comme si, finalement, le cerveau était résilient, était capable de lutter. Donc, ça veut dire qu'il faudra intégrer dans nos algorithmes à venir la capacité qu'a le cerveau de résister contre les lésions de la maladie. Alors, à partir de là, nous, on travaille avec d'autres à l'idée de travailler sur des centres de prévention du vieillissement cognitif. Je passe rapidement. L'idée est la suivante. Dans l'avenir, il y aura des gens, comme ce monsieur, patient au stade précoce, patient à risque, sujet contrôle, qui rejoindront des cohortes. Et on travaille avec Vincent Planche sur le concept de ces cohortes. Travailler sur des cohortes de sujets informatifs, des sujets qui vont nous donner des informations, parce qu'ils seront inclus dans des cohortes. Et on va suivre ces cohortes pendant des années. Et à la fin, il y aura ce qu'on appelle des outcomes, il y aura des évolutions, soit vers telle maladie, soit vers telle autre, soit pas de maladie du tout, soit l'Alzheimer, etc. Très bien. Et donc, on aura des bases de données. Et à partir de ces bases de données, on pourra élaborer des algorithmes de prédiction. Donc, imaginez que nos centres de recherche vont pouvoir fournir des algorithmes de prédiction. Alors, on a les algorithmes de prédiction dans le centre de recherche. Et à partir de là, on aura des centres cliniques, à l'hôpital, si vous voulez, où viendront des gens comme vous et moi qui voudront évaluer leurs risques personnalisés. Ils vont savoir quel est mon risque. Ma mère est atteinte de la maladie d'Alzheimer, j'ai 70 ans, j'ai un peu d'hypertension artérielle, j'ai un oncle qui a eu une telle maladie, etc. Bon, quel est mon risque? Parce que c'est ça qu'il faudra évaluer. S'ils sont biomarqueurs positifs, le risque de développer la maladie n'est pas formel, comme je vous l'ai expliqué. Et il faudra utiliser l'algorithme de prédiction pour dire, voilà, bien vous, oui, c'est intéressant, parce que vous avez quand même un risque de 90% dans les 2 ans qui viennent. Donc, vous, ça vaut peut-être le coup de prendre un médicament qui empêchera ou retardera l'entrée dans la maladie. Vous, au contraire, non, vous n'avez aucun risque, vous êtes APOE2, vous n'avez aucun facteur familial, vous avez une plainte qui est tout à fait banale, les tests sont normaux. Très bien, ben revenez nous voir dans 10 ans, vous voyez. Donc, c'est comme ça qu'on voit les choses. Donc, à ce moment-là, lorsque on évaluera le risque, on pourra faire des interventions ciblées, bien sûr, lutter contre les facteurs de risque modifiables. S'il y a de l'hypertension artérielle, s'il y a du diabète, de l'obésité, il faudra lutter contre ça. Et puis, peut-être, comme je vous l'ai dit, en fonction de la prédiction, mettre en place une intervention ciblée. Voilà. Donc, c'était en gros le rappel que je voulais vous faire. Partir, vous voyez, de cette maladie d'Alzheimer telle qu'elle a été décrite par Alzheimer, vous voyez, une maladie clinico-pathologique, et maintenant, grâce aux biomarqueurs, une avancée mais incroyable au cours de ces 20 dernières années, et qui révolutionne complètement notre vision de cette maladie, qui devient une maladie incroyablement moderne, qui pose des questions vraiment passionnantes, et notamment de questions de prédiction. Et je pense que des centres comme les centres qui sont comme le centre de Bordeaux a son rôle à jouer dans justement cette stratégie de prédiction, car il y a là une très très bonne épidémiologie à Bordeaux et il y a de très bons cliniciens qui sont, je crois, dans cet état d'esprit de travailler sur les algorithmes de prédiction. Je vous remercie de votre attention.
Merci, professeur. Prenez un micro parce qu'il va y avoir un micro qui va passer dans la salle pour poser toutes vos questions. Le professeur Bruno Dubois va y répondre avec plaisir. N'hésitez pas à lever la main et un micro va passer dans la salle. Allez-y.
Oui, merci pour votre présentation. J'aimerais savoir le fait d'avoir les marqueurs dans le sang. Est-ce que si on a un patient qui a donc ses marqueurs. Est-ce que vous ne pensez pas que ça peut être, au contraire, très anxiogène?
Bien sûr. Mais bien sûr, je vous remercie de cette question. Et on est très, très préoccupé par cette problématique. Je pense que le biomarqueur n'est là que pour confirmer un syndrome clinique. Alors, quand vous avez un syndrome clinique, quand vous avez un sujet qui a une détérioration cognitive, le rôle du médecin est de savoir à quoi est due cette détérioration cognitive. Et là, le biomarqueur est une aide. Vous comprenez ? Il ne faut pas s'en priver. On fait la ponction lombaire aujourd'hui, si on peut le faire en prise de sang, et si la prise de sang est fiable, encore faut-il qu'elle soit fiable, à ce moment-là, ça évite de faire la ponction lombaire, tant mieux, tant mieux. Le risque, c'est celui que vous pointez du doigt, c'est qu'à ce moment-là, on utilise cette connaissance chez des gens normaux, ces gens qui n'ont pas de syndrome. Et là, c'est dramatique, parce qu'on va leur révéler qu'ils sont biomarqueurs positifs avec toutes les incertitudes que j'ai soulevées sur le risque éventuel de développer la maladie. Le fait d'être biomarqueur positif ne veut absolument pas dire qu'on va développer la maladie. Donc ça veut dire qu'il faudrait être extrêmement subtil dans l'explication du trouble, de la réponse, et leur dire, bon, vous êtes positif, mais ça ne veut pas dire que, etc. Et s'il faut, je ne sais pas, quand elle a acheté un appartement, ben non, parce que je suis biomarqueur. Et d'ailleurs, peut-être même que les assurances auront accès à cette information et que ça compliquera justement la possibilité d'obtenir des crédits. Donc c'est dramatique. On est très conscient de cela. On ne peut pas aller contre les avancées médicales. Elles sont intéressantes. Il faut en maîtriser l'usage. Et je pense qu'il faudra à un moment donné expliquer aux médecins qu'il ne faut pas recourir à cette méthode s'il n'y a pas un syndrome clinique qui nécessite un diagnostic précis. Et là, à ce moment-là, l'examen est peut-être efficace.
Bon, vous avez dit tout à l'heure, effectivement, qu'on ne pouvait pas faire d'examen sur des personnes saines. Mais est-ce que, après, une fois que la maladie est déclarée, c'est incontournable. De toute manière, on connaît l'aboutissement, même si vous avez des super produits qui vont très, très bien ralentir. Mais est-ce qu'on ne peut pas anticiper quelque part ?
Merci. C'est très important ce que vous dites, parce que ça permet de peut-être d'apporter un correctif à la réponse un peu directe que j'ai faite juste avant. Vous avez raison. Si on a des médicaments dont on a montré qu'ils étaient efficaces chez ces patients, c'est chez les sujets normaux à risque et à haut risque. Donc il faudra déterminer le haut risque. Mais à ce moment-là, ça change tout, parce qu'il faudra justement, probablement, aller vers une sorte de, presque, on pourrait dire, de dépistage un peu systématique de gens à risque, si on a le médicament. Mais cette approche ne se justifie que si on a quelque chose à proposer. Monsieur se posait la question de la connaissance indépendamment de l'action. La connaissance par elle-même est effroyable. Dire à quelqu'un qu'il a un risque, qu'il a les lésions de la maladie d'Alzheimer, si on n'a rien à lui proposer en face, ça n'a pas d'intérêt. Mais ce que vous dites, vous avez raison. Si ces médicaments arrivent, à ce moment-là, bien sûr, on va tous se mobiliser pour essayer justement d'en faire profiter un maximum de gens. Mais je voudrais simplement vous faire remarquer que c'est complètement différent de développer un médicament comme je vous l'ai montré chez les malades, parce que là, vous avez des populations bien caractérisées, et puis vous avez, à ce moment-là, vous mettez votre groupe placebo, votre groupe traité, un an et demi, vous voyez les résultats, et si la différence est significative, vous avez votre réponse. Là, ça va être complètement différent, puisqu'on va prendre des gens normaux, on ne sait pas combien de temps il faut les suivre pour qu'ils évoluent vers une maladie, donc il va falloir probablement suivre un très grand nombre de sujets, les suivre comme ça, et puis avoir des signaux qui nous disent, voilà, il y a une différence entre les deux, mais au bout de combien de temps, quelle est la taille de la population, quelle est la durée avant laquelle on peut espérer, entre guillemets, avoir un résultat, ça va être des études extrêmement onéreuses, très longues, et les laboratoires commencent à y réfléchir, mais ils sont conscients que ça va être très compliqué. Ce que je vous ai dit, vous avez compris, c'est de la science-fiction, hein, on n'en est pas là du tout, mais on est là, on anticipe, c'est pour vous montrer la dynamique qu'il y a, justement, et pourquoi il y a une fondation pour recherche Alzheimer, c'est que voilà, ça bouge beaucoup, justement, dans le domaine de la recherche clinique, et c'est le message qu'on voulait vous faire passer, quoi. Madame ?
Oui, vous avez dit que la maladie était naturellement liée à l'âge. Est-ce qu'on a des éléments d'explication sur l'origine des lésions chez les sujets jeunes ?
Alors, je suis gêné pour vous répondre, parce que vous avez raison. la façon dont je vous ai présenté la maladie, ça donne l'impression que c'est une maladie qui est due à l'âge. Non, je vous ai dit qu'elle était naturellement, elle est liée à l'âge, c'est-à-dire qu'elle augmente, sa fréquence augmente plus les gens vieillissent. Mais ça ne veut pas dire que c'est le vieillissement qui déclenche la maladie. Ce sont des lésions qui, à un moment donné, surviennent. Alors, on connaît la survenue, le mécanisme de survenue de ces lésions. C'est-à-dire que vous avez, au départ, on a tous quelques lésions de la protéine Tau dans les régions temporales internes et qui restent cantonnées. Et l'explication qu'on a aujourd'hui et qu'on propose, c'est qu'il va apparaître des lésions amyloïdes dans le cortex cérébral et que l'apparition de ces lésions amyloïdes entraîne une sorte d'emballement de la pathologie Tau qui va se mettre à embraser l'ensemble du cerveau. Alors on ne connaît pas les raisons pour lesquelles apparaissent ces plaques amyloïdes qui entraînent cet embrasement. Les plaques amyloïdes sont naturellement produites par le cerveau, mais elles sont digérées. En permanence, on fait des plaques amyloïdes, elles sont en permanence digérées. Puis à un moment donné où le système de digestion est dépassé, où il y a des systèmes de digestion défaillants, et à ce moment-là, ces plaques amyloïdes deviennent nombreuses et se mettent à activer l'embrasement des lésions Tau et qui est responsable des symptômes. Mais ce phénomène peut arriver à 45 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans. Il est, semble-t-il, beaucoup plus fréquent chez les personnes âgées. Mais il arrive aussi, vous avez raison, chez les personnes jeunes. Et en neurologie, nous voyons malheureusement des patients de 40, 50 ans. Et c'est juste pour vous rappeler quand même que ce que je vous ai montré, la première slide que je vous ai montré sur Alzheimer, c'est, comme je vous l'ai rappelé, c'est une patiente qui avait 52 ans lorsqu'il a... Il a vu la patiente. Et d'ailleurs, Alzheimer a décrit cette maladie comme une maladie de la personne jeune. C'était la démence pré-sénile, avant la sénilité. Et à l'époque, c'était l'âge qui avait été déterminé, c'était 65 ans. Donc, nous avons appris, les plus anciens, il y a peut-être quelques médecins un peu plus anciens, nous avons appris qu'il y avait d'un côté la démence pré-sénile, maladie d'Alzheimer, maladie décrite par Alzheimer, et de l'autre côté, il y avait le gâtisme, la démence sénile qu'on voyait chez les personnes âgées ou très âgées. Et en 1976, un médecin américain a dit « Mais finalement, ces deux maladies sont les mêmes. Elles ont les mêmes symptômes, elles ont les mêmes lésions, elles ont les mêmes déficits biochimiques. Pourquoi réserver le nom de maladie d'Alzheimer que dans la forme précoce et ne pas englober sous le même terme ces deux entités ?» qui sont finalement les deux extrêmes, les deux spectres d'une même maladie. Et finalement, ce faisant, on a fait de la maladie d'Alzheimer, qui était une niche, qui était une maladie extrêmement rare, une maladie extrêmement fréquente. Voilà. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens viennent nous voir, de neurologues, en disant « Mais attendez, ma mère avait un peu la démence sénile, est-ce que c'est... Maintenant, on dit que c'est la maladie d'Alzheimer, est-ce que c'est la même maladie ?» Oui, maintenant, on dit que c'est la même maladie. Ça englobe, je dirais, les deux, et la démence sénile, et la démence pré-sénile, la maladie initialement décrite par Alzheimer.